Madame et messieurs, bonjour. Pour cette seconde conférence de la série dédiée au double dans la culture ancienne, et comme vous avez vu, parfois, le titre de cette conférence est « Identité héroïque » ou « La force de celui-là et celui-là ». Un titre un peu énigmatique, un peu bizarre, que j'espère expliquer pendant ma conférence. Donc, les Grecs, plus haut.
Moi,
je suis... Je parle un petit plus fort. Voilà. Donc, les Grecs racontaient que Zeus était tombé amoureux d'Alcmène, la femme d'Amphitryon, et qu'il avait séduite en prenant en tout point l'identité de son mari. En somme, Alcmène avait cru partager sa couche avec Amphitryon, qui aurait délassé la guerre en toute hâte tant il la désirait, alors qu'en réalité, elle s'était donnée au père des hommes et dédiée. Peut-être la reine de Thèbes s'était-elle aperçue que cette fois-ci, son mari avait un petit quelque chose d'extraordinaire, ne fût-ce que parce que cette nuit d'amour avait été trois fois plus longue que la normale. Au moins, celle-ci était l'opinion de Jean Giraudoux. Mais c'est là autre chose. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est que cette nuit fatidique, en s'unissant à Zeus, Alcmène avait conçu Héraclès. Ce mythe célèbre correspond à un schéma narratif dont nous nous sommes déjà occupés au cours de la conférence précédente. Quelqu'un est privé, ou plutôt dépossédé de son identité par une autre personne qui en révèle l'apparence en tout point. Et c'est expressément pour nuire à l'original, dans le cas présent, pour séduire son épouse. C'est là une situation qui revient assez fréquemment dans la tradition littéraire antique et médiévale. Nous nous contenterons d'en citer quelques exemples parmi tant d'autres dont l'énumération risquerait de devenir trop longue. À côté de Zeus qui prend les traits d'Amphitryon pour séduire Alcmène, nous pourrions placer les héros Astrabacos qui, d'après les récits qu'en fait Hérodote, prend les traits d'Ariston pour séduire son épouse. Héraclès, à son tour, prend l'apparence de Timosthénès pour partager la couche de sa femme. Ainsi naîtra le célèbre lutteur Théogénès de Thasos. C'est bien pour un lutteur avoir un père comme Héraclès, évidemment. Voilà, au Moyen-Âge, voilà l'histoire de Uther Pendragon dans l'Historia Regum Britanniae, qui usurpe les traits de Gorlois pour pouvoir posséder sa femme, Igerne, et ainsi de suite. Enfin, n'oublions pas que l'Antiquité tardive, comme le Moyen-Âge chrétien, nous livre d'innombrables histoires dans lesquelles un démon prend l'aspect d'un mari pour abuser de la bonne foi d'une épouse vertueuse, répétant ainsi les prouesses qu'en son temps, les us païens des Grecs avaient accomplies. Ce sont par exemple les douzii des Celtes, ce démon populaire dont parlait déjà saint Augustin, ou les diables en général qui jouent souvent de ses tours au pauvre mari. Ainsi, par exemple, dans une histoire racontée par Giraldus Cambrensis dans son Itinerarium Cambriae. Mais revenons à Homère, qui nous donne des renseignements extrêmement intéressants sur ce qu'il arriva après que Zeus, sous les traits d'Amphitryon, eut mis Alcmène enceinte. Dans l'Iliade, les poètes racontent que les jours où Alcmène devait donner naissance à Héraclès, Zeus s'adressa à tous les dieux et, débordant d'orgueil, il leur déclara ce qui suit. « Écoutez-moi tout, dieux et déesses, je vais vous dire ce que mon cœur m'inspire. Aujourd'hui, Ilithie, qui fait enfanter dans la douleur, c'est la déesse de l'enfantement pour les Grecs, Ilithie fera venir au monde un homme qui régnera sur tous ses voisins, un des hommes qui sont des Maras et des Monsans. » Zeus, il se référait à Héraclès, évidemment. Zeus, toutefois, n'avait pas pris en considération la perspicacité extraordinaire de sa femme, Héra, qu'Homère appelle Héra à l'esprit rétor. Celle-ci lui répondit en ces termes : « C'est un mensonge. Tes paroles ne s'accompliront pas. Allons, dieu de l'Olympe, jure-moi, fais le serment solennel qu'il régnera bien sur tous ses voisins, celui qui aujourd'hui tombera entre les pieds d'une femme, un des hommes qui sont de ta race et de ton sang. » Donc elle répète la phrase de Zeus en les modifiant un peu. Zeus ne s'aperçut pas que les mots de sa femme dissimulaient une ruse, et comme elle les lui avait demandé, il jura solennellement. Ce fut à cet instant que l'esprit de Zeus fut aveuglé par Athée, la déesse qui ôte la raison aux mortels. Non, mais aveuglé par Athée. Nous autres, qui sommes plus laïcs, nous dirions que ce fut à cet instant que Zeus commit une erreur irréparable. Car sur les champs, Héra, et c'est encore Homère, quitta d'un bond les fêtes de l'Olympe et rejoignit à la hâte Argos d'Achaïe, où résidait la noble épouse de Sthénélos, le fils de Persée. Elle attendait un enfant et s'est trouvée au septième mois. Mais Héra les fit naître avant l'heure, tandis qu'elle retarda l'enfantement d'Almène et qu'elle retint les Élytis. Puis elle alla annoncer à Zeus, le fils de Cronos, « Zeus père, dieu de la foudre éclatante, j'ai quelque chose à te dire. Un homme illustre qui régnera sur les Achéennes est né. C'est Eurysthée, fils de Sthénélos, qui descend de Persée. Il est Taras, il est digne de gouverner les Achéens. » De fait, on pouvait dire à bon droit qu'Eurysthée descendait lui aussi de Zeus, puisque son père, Sthénélos, était le fils de Persée, qui lui-même était le fils de Danaé et de Zeus. Il faut bien admettre que Zeus, avec toutes ses aventures amoureuses, avait disséminé des enfants de son propre sang d'ici de là. En retardant l'accouchement d'Almène et en attendant celui de Nikipé, la femme de Sthénélos, Héra avait fait en sorte que les vœux formés par Zeus devant tous les dieux s'accomplissent conformément à sa déclaration solennelle. Mais ce faisant, elle avait parvenu à les priver de la satisfaction de voir le fils, né de son union avec Almène, devenir le maître de tous ses voisins. Il va sans dire que Zeus fut profondément affligé lorsqu'il comprit qu'il avait été trompé. Laissant exploser sa colère, il saisit Athée par les cheveux et la chassa de l'Olympe, en jurant que jamais, au grand jamais, la déesse qui aveugle n'y reviendrait. C'est pour ça qu'Athée eut au fait de rejoindre le monde des hommes. Et maintenant, nous sommes aveuglés par Athée presque tous les jours. Donc, Eurysthée est né quelques instants avant Héraclès, ce qui va lui permettre de souffler les rangs qui devaient revenir aux héros. Qui plus est, il aura même le pouvoir de lui imposer les fameux 12 travaux. Eurysthée aura le pouvoir d'imposer les travaux parce que le souverain Héraclès a perdu son rang. Mais n'oublions pas que lorsqu'il fut enfin possible à Alcmène d'accoucher, elle mit au monde non pas un enfant, mais deux. Elle conçut un fils de Zeus, c'est vrai, mais elle en attendait déjà un autre de son mari Amphitryon. Voilà que le thème du double héroïque sous forme d'une couple de gémeaux, les jumeaux commencent à se présenter. Comme les narrent les poèmes grecs intitulés « Les boucliers » et attribués à Hésiode, Alcmène, en s'unissant au dieu et à son mari, c'est-à-dire Amphitryon et à Zeus, à Thèbes, mit au monde deux jumeaux, mais de caractères différents, bien qu'ils fussent frères. L'un inférieur, l'autre bien supérieur, puissant, vigoureux, la force d'Héraclès. Celui-ci naquit de l'union avec Zeus, mais l'autre, Iphiclès, naquit de l'union avec Amphitryon. Il arrive souvent que les jumeaux, tant dans la culture antique que dans celle du Moyen Âge, soient considérés comme les fruits d'un adultère. Cette croyance est aussi attestée dans le monde romain. Une histoire racontée par Pline l'Ancien, par exemple, rapporte qu'une femme mit au monde des jumeaux, l'un qui ressemblait à son mari et l'autre qui ressemblait au fermier. Dans les croyances populaires, la conception de deux enfants à la fois renvoie à l'intervention de deux pères différents. Ce fut le sort réservé à ces deux jumeaux mythiques, Héraclès et Iphiclès. L'un était le fils d'un dieu, l'autre d'immortel. Essayons donc de résumer les données qui nous ont été offertes jusqu'à ce moment par les récits mythiques de la séduction d'Alcmène et de la naissance d'Héraclès. Nous avons affaire avec deux thèmes principaux. Le premier, la naissance du héros coïncide avec un moment temporel indiqué par la divinité. Aujourd'hui, dit Zeus. Il s'agit d'une coïncidence qui, en tant que telle, a le pouvoir de faire du nouveau-né un souverain puissant. Pour cette raison, les ennemis de l'enfant mettent en place une ruse qui l'exclut de cette coïncidence et la tourne à l'avantage d'un autre. Deuxième thème. La naissance du héros se dédouble et se multiplie dans d'autres naissances contemporaines et parallèles. Celle d'Iphiclès, le frère jumeau d'Héraclès, celle d'Eurysthée, son demi-frère, rival, issu du même sang que lui. En même temps, la paternité aussi du héros se dédouble. Héraclès est le fils de Zeus, mais en même temps, il possède aussi un père putatif et officiel dans la personne du mari de sa mère, Amphitryon. Procédons donc dans l'ordre. Nous examinerons d'abord le thème de la coïncidence entre l'accouchement du héros et un moment temporel spécifique. Ensuite, nous aborderons les thèmes de dédoublement qui accompagnent la naissance du héros, soit la multiplication des naissances autour de la sienne, soit sa double paternité. Voyons donc les thèmes de la coïncidence temporelle. Celui qui naîtra aujourd'hui, dit les Zeus de l'Iliade, sera le roi de tous ses voisins. La notion de temps, d'un temps précisément établi, joue un rôle essentiel dans la caractérisation du héros. Une autre personne qui présenterait les mêmes qualités n'aurait pas la même destinée si elle devait naître demain ou si elle était née hier. En indiquant le jour exact où la naissance doit avoir lieu, Zeus invoque l'instrument qui peut déterminer l'identité de l'enfant. Il n'y a rien d'étrange là. Nous en faisons autant sur nos papiers d'identité. Mais à Paris, etc., etc. Et cette date nous donne une bonne partie de notre identité. Ne nous laissons pas égarer donc par l'esprit compliqué de Zeus, comme dit Homère, l'esprit compliqué. Bien qu'il se rapporte à des relations familiales embrouillées, l'Édier ne fait guère que produire un acte de naissance. Le fils d'un tel est né tel jour. À ceci près, toutefois, que cet acte n'est pas rédigé par un employé de la mairie, mais par les maîtres des hommes et de Dieu. Partant, il prend aussitôt une signification exceptionnelle. Ce jour, dès lors qu'il est établi par Zeus, devient une date non plus relative mais absolue. C'est un signe de grandeur et de bonne fortune. Tant et si bien que, pour d'autres aussi, il devient pour les moins souhaitables de naître exactement ce jour-là. Nous savons déjà ce que cela va donner. Naturellement, il y a d'autres moyens que la parole solennelle d'un dieu pour reconnaître le jour plus propice que les autres, voire le jour idéal qui déterminera la destinée d'un enfant qui doit encore naître. Il y a tout d'abord les systèmes de traditions hémérologiques qui se sont établis au sein d'une culture donnée. En Grèce, par exemple, Hésiode indiquait déjà quelques jours par mois qui s'est prêté plus ou moins à la procréation d'une fille ou d'un garçon et précisant clairement les caractères ou les qualités que l'enfant allait avoir selon les jours où il naissait. En matière d'influence et de date, néanmoins, il n'y a rien de mieux que les conjonctions compliquées des astres pour déterminer si un certain jour ou une certaine heure est propice ou néfaste à une venue au monde. On peut devenir un grand héros non seulement en tombant entre les pieds d'une femme, comme dit Homère, les jours indiqués par Zeus, mais aussi dans d'autres cultures que celles représentées par l'Iliade, en naissant ou en étant conçu lors d'une délicate combinaison de signes célestes analysés par un astrologue. Dans certains cas, l'astrologue pouvait assister directement à l'accouchement, par exemple à l'occasion des naissances royales, sans quoi la tâche de scruter les ciels revenait à la coucheuse. D'autres fois, en revanche, il arrive que non seulement l'astrologue assiste à l'accouchement, mais qu'il les dirige aussi, en quelque sorte. Ce qui nous amène au thème qui nous intéresse plus particulièrement. À ce sujet, l'exemple le plus célèbre est constitué par la naissance du héros dans les romans d'Alexandre, ces textes de l'Antiquité tardive qui a joui d'une fortune incroyable en Occident comme en Orient. Nous voici en présence d'un astrologue qui dirige directement un accouchement afin qu'il coïncide avec une conjonction astrale précise et qui, pour ce faire, en arrive à contraindre la future mère à retarder la naissance de l'enfant. L'auteur du roman a déjà raconté comment Nectanebo, l'astrologue, a prédit à Olympias, la femme de Philippe, qu'elle mettrait au monde un fils du dieu Amon. Il a aussi raconté que le magicien, grâce à ses pouvoirs, a séduit la reine en lui faisant croire qu'il était Amon en personne. C'est toujours la même histoire, le même type mythique. La reine conçoit l'enfant et ils attendent tous les deux que l'heure de l'accouchement approche. Quand la grossesse arrive à terme, Olympias s'assit sur le siège gynécologique, puis il entra à un travail. Nectanebo était là pour l'assister dans le rôle d'accoucheur. Mais il s'occupait bien plus des mouvements des constellations dans le ciel que de l'accouchement de la reine. Et il exhortait cette dernière à ne pas accélérer les choses. De fait, il mettait à profit sa science magique pour être le maître de la situation. Et il disait à la reine, « Retiens-toi, femme, domine ce à quoi la nature te pousse. Car si tu accouches maintenant, tu mettras au monde un esclave et un prisonnier de guerre ou un effroyable monstre. » Les douleurs étaient de plus en plus vives, mais Nectanebo disait à la reine, « Résiste encore un peu, femme, car si tu accouches maintenant, tu mettras au monde un galus châtré. » Nectanebo l'exhortait en ce terme, tout en lui apprenant à entraver l'accouchement avec ses mains, tandis que lui-même retardait le travail avec ses pouvoirs magiques. Enfin, observant la marche de l'univers, Nectanebo vit que le ciel entier était dans un équilibre parfait, tandis qu'une clarté semblable à celle du soleil à midi l'inondait. C'est alors qu'il dit à Olympias, lance les cris de la naissance, et lui-même acquiesça d'un signe des têtes pour autoriser l'accouchement. Et il lui dit, voilà, tu vas donner le jour à un roi qui sera le maître du monde. Olympias poussa un cri plus fort que le beuglement d'une vache et elle enfanta un garçon sous le signe de la fortune. Dès que l'enfant tomba à terre, le tonnerre gronda et les éclairs illuminèrent le ciel au point que l'univers tout entier en fut ébranlé. Alexandre le Grand a été accouché. Voilà un autre grand héros qui tombe entre les pieds d'une femme, comme disait les textes de l'Iliade. Mais surtout, il tombe à terre à un moment précis, à cette heure ici. Comme Nikipé, la mère de Sthénélos, et comme Alcmène, Olympias est une femme dont l'accouchement ne suit plus son cours naturel pour avoir lié à un moment précis dans le temps. La coïncidence ne correspond plus à un jour fixé par Zeus, évidemment, mais à un moment astrologique précis que les magiciens et l'astrologue a su identifier. À présent, c'est le code des signes célestes qui trace la carte du destin. Pour chaque moment qui passe, le magicien est en mesure de déchiffrer la nature des signes et par conséquent de connaître l'essor qui attendra le nouveau-né s'il vient au monde à cette heure-là. Continuons notre comparaison, notre voyage entre la naissance, notre naissance héroïque. Nous avons dit que comme Nikipé, la mère de Sthénélos, et comme Alcmène, la mère d'Héraclès, Olympias est une femme dont l'accouchement ne suit plus son cours naturel pour respecter une coïncidence temporale précise. La différence réside dans le fait que cette fois, c'est un astrologue qui a calculé à quel moment la naissance devait avoir lieu et non plus un dieu qu'il avait lui-même indiqué. Mais comme tout le monde l'a sans doute remarqué, les récits de la naissance d'Alexandre se distinguent de celui de l'Iliade sous un autre aspect. Il y manque, en effet, le thème du conflit pour naître les jours dits. Alexandre ne doit pas se défendre contre un Orestée qui tente de s'arroger sa coïncidence. Toutefois, dans la littérature de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, en Occident comme en Orient, l'univers des récits liés à Alexandre est tellement vaste qu'il existe aussi une version de sa naissance dans laquelle ressort le thème du conflit pour bénéficier du privilège de la coïncidence temporelle. Il s'agit d'un récit issu de la culture arabe, dans lequel, naturellement, Alexandre porte le nom oriental de Dhulkarnain. Nous le devons au grand théologien, érudit et écrivain arabe Ad-Damiri, né au Caire au début de 1341 et mort en 1405, toujours au Caire. Il doit surtout sa renommée à son œuvre Hayat al-Yavam, une grande encyclopédie zoologique qui le rendit célèbre tant en Orient qu'en Occident. On peut lire ce qui suit dans cette œuvre. Les opinions divergent au sujet de la descendance et du nom de Dhulkarnain. L'auteur de Ibtilal Akhyar déclare que le nom de Dhulkarnain était Alexandre et que son père était le plus grand érudit de la Terre dans la science de l'astrologie. Personne n'avait observé les mouvements des étoiles autant que lui, et Dieu avait allongé la durée de sa vie. Une nuit, il dit à sa femme, « Je suis à demi-mort tant j'ai besoin de dormir. Laisse-moi seul, afin que je me repose en paix et observe le ciel pour moi. Quand tu verras poindre une certaine étoile de ses côtés, et il indiqua de sa main à quel endroit l'étoile devait poindre, réveille-moi pour que je m'unisse avec toi, et tu concevras un fils qui vivra jusqu'à la fin des temps. » Or, il se trouva que la sœur de sa femme écoutait ces mots. Puis le père d'Alexandre s'endormit et la sœur de sa femme se mit à observer les étoiles. Quand l'étoile apparut, elle en informa son mari et s'unit avec lui, de sorte qu'elle conçut Alkidre, si bien qu'Alkidre a été le fils de la tante maternelle d'Alexandre. Il fut aussi son vizir. Quand le père d'Alexandre se réveilla, il vit que l'étoile était descendue dans un signe du zodiaque différent de celui qu'il observait, et il dit à sa femme, « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Elle répondit, « J'ai eu honte. » Il répliqua, « Ne sais-tu pas que j'ai observé cette étoile pendant 40 ans, grandier, j'ai gâché ma vie pour rien. Mais au moment dit, une autre étoile poindra dans les sillages de la première, et je m'unirai avec toi pour engendrer un fils qui est le deux cornes du soleil. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps avant que l'étoile ne paraisse, et c'est à ce moment qu'il s'unit avec sa femme et qu'il engendrait Alexandre, lequel fut donc conçu la même nuit que le fils de sa tante maternelle, Alkidre. Par la suite, Dieu permit à Alexandre de posséder fermement toute la terre. Il conquit des territoires et sa carrière fut celle qu'on lui connaît. Fin de la citation. Le personnage d'Alkidre ou Al-Kadir tient une place importante dans la culture et dans les légendes de l'islam. Quant à la tradition qu'il associe à Alexandre le Grand, elle les présente comme les compagnons de Dhulkarnain, les compagnons d'Alexandre, qui commandent l'avant-garde de l'armée pendant la marche vers la source de la vie. Dans la version de la naissance d'Alexandre, qui donne à Damiri, il n'est fait aucun doute qu'Alkidre joue un rôle semblable à celui d'Orestée vis-à-vis d'Héraclès. En effet, il dérobe lui aussi les privilèges de la coïncidence à son rival, faisant son profit d'avantages qui étaient réservés à l'autre. Les instruments narratifs de l'histoire islamique, naturellement, sont différents de ceux du récit d'Héraclès et d'Orestée. La coïncidence créée par la parole de Zeus a été remplacée par une autre de caractère astrologique, comme du reste dans la version grecque et latine qui raconte la naissance d'Alexandre. Tandis que le père du héros, qui était indien, est devenu un astrologue avec des pouvoirs surhumains. De plus, la tromperie n'est plus mise en œuvre par une déesse jalouse de son mari volage et de l'heureuse mère du héros, une déesse qui a parfaitement compris ce qui se passe parce qu'elle est douée d'omniscience elle aussi. Cette fois, c'est la sœur de la future mère qui, avec un artifice presque digne d'une comédie, écoute en cachette les explications de l'astrologue. Cependant, le récit reste le même du mythe grec de la naissance d'Héraclès. Elle ne sent trop la coïncidence, les stratagèmes pour tromper le père du héros, les fils qui perdent son privilège, la naissance de l'autre, etc., sont identiques. La rivalité entre Héraclès et Eurysthée s'est teintée d'astrologie et les amours du grand Zeus ont été remplacés par des conceptions d'enfants entre magicien et épouse mortelle. Mais les magiciens distraits, tout comme Zeus, l'a été sur Olympe. Alors que, bien entendu, la femme est aussi eustocieuse que Héra. Finalement, Dulcarnaille, malgré tout, parvient à retrouver en partie les privilèges qui lui a échappé, puisque Dieu intervient plus tard pour lui conférer le pouvoir de régner sur la terre, exactement comme Héraclès, qui parviendra à rattraper Eurysthée jusqu'à prendre finalement place parmi les immortels. Quel est donc l'essence, si je puis dire, de cet ensemble de récits mythologiques qui lie l'accouchement d'un héros avec un moment temporal privilégié? Comme nous le savons déjà, les jours ou les moments de la naissance constituent un mécanisme d'identification immédiat. Je suis moi parce que je suis né ce jour-là. Ces jours-là représentent les documents plus immédiats de mon identité. De même ici, avec le souci de respecter une coïncidence précise pour la naissance de l'enfant, quitte à tromper des pères ou à faire souffrir des mères. Le héros est soi-même, dispose de son identité unique parce qu'il est né exactement à ce moment-là. Mais quel type d'identité reçoit-il en naissant exactement à ce moment-là? Une identité exceptionnelle, évidemment. Tout à fait exceptionnelle comme le moment choisi pour sa naissance. Dans d'autres termes, le schéma mythique que nous avons essayé de décrire a la capacité de véhiculer à travers les ressources narratives du récit les caractères exceptionnels attribués à l'identité du héros. Héraclès, Eurysthée, Alexandre, Dulcarnaille, Alcidre, etc. ne sont pas comme tous les autres. Leur identité est marquée par une empreinte exceptionnelle qui vient soit du temps mythique établi par le vouloir d'une divinité, soit du temps astrologique. À ce point de notre analyse, nous voudrions nous concentrer sur les seconds thèmes que nous avons annoncés plus haut. La multiplication des naissances autour de celle du héros et sa double paternité. Nous nous rappelons en effet que lorsque Héraclès vint au monde, sa naissance ne fut pas seulement liée à celle d'Eurysthée, son parent rival, son demi-frère rival, mais aussi à celle d'un jumeau à proprement parler, Iphiclès, les fils d'Alcmène et d'Amphitryon. Héraclès n'est pas tout seul. En même temps, que lui naisse d'un jumeau, son frère par sa mère, et disons un cousin ou un demi-frère par son père, Eurysthée. Tout comme la conception de Dulcarnaille s'est produite en même temps que celle d'Alcidre, son cousin. Tentons d'élargir encore notre perspective en nous glissant par moments dans le monde de la mythologie irlandaise. De ce point de vue, en effet, l'histoire de la naissance du héros Mongan, telle que la raconte un manuscrit du XVe siècle, devient extrêmement intéressante. C'est évidemment une version, une variante du mythe d'Alexandre. L'histoire d'Alexandre était si répandue qu'avait influencé aussi la tradition irlandaise. D'après cette version, un dieu qui s'appelle Mananan prend l'aspect de Fiacnalebo, un guerrier, Fiacnalebo, pour partager la couche de sa femme. Et cette union naît l'héros Mongan, qui donc est conçu à peu près de la même manière d'Héraclès, etc. Mongan est lui aussi un héros fils de deux pères, un d'origine divine et l'autre d'origine mortelle. De plus, pour l'engendrer, son père divin avait pris les traits de son père humain, comme Zeus avait fait en son temps avec Amphitryon. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, si je puis dire. Si ce n'est que la nuit même où mon gars vint au monde, il arriva que la femme de l'écuyer de Fiacna le Beau, c'est-à-dire du père mortel de mon gars, la femme de l'écuyer de Fiacna le Beau, accoucha d'un garçon qui s'appelait Macandine. Les deux enfants furent baptisés ensemble et Macandine deviendra un fidèle compagnon d'aventure de mon gars au long de sa vie. Mais toujours cette même nuit, Fiacna le Noir, un guerrier, un autre guerrier qui régnait aux côtés de Fiacna le Beau, eut lui aussi une fille qui s'appelait Canne Noire, Dublacha. Mongan et Dublacha furent aussitôt fiancés et plus tard ils se marièrent. Voici donc que dès la naissance même, deux couples sont formés à la croisée du héros, l'un du même sexe et l'autre de sexe différent. Mongan et son futur écuyer d'un côté, Mongan et sa future épouse de l'autre côté. D'emblée, la naissance de Mongan est dédoublée et réfractée dans d'autres venues au monde concomitantes. Voilà ce qui nous intéresse. Une fois de plus, l'identité du héros semble se multiplier, se réfléchir dans celle d'autres nouveau-nés, dont l'existence restera indissolublement liée à la sienne. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement les naissances humaines qui sont en question, puisque souvent, les héros naissent exactement au moment où naît aussi un animal. Une énumération des exemples possibles serait longue. Aussi pouvons-nous encore nous rapporter à la mythologie irlandaise. Donc, un poulain naît en même temps que Pryderi, deux poulains avec Chuchulainn, qui est l'héros peut-être le plus célèbre de cette tradition, un chien avec Finn, un frère poisson avec Leo, et dans le cas de Lug, 12 demi-frères qui se transforment en phoques. Cette fois encore, les héros ne naissent pas seuls. Sa naissance projette des ombres, des images spéculaires, comme si sa venue au monde n'était pas une, mais multiple. Les animaux nés en même temps que lui finissent inévitablement par représenter sa personne et partant par dilater, d'une certaine façon, son identité. L'identité du héros, dédoublée, réfractée, multipliée à sa naissance, est plus grande que celle d'une créature normale, parce que de cette manière, on lui attribue la capacité d'être à la fois lui-même et d'autres personnes. Comme si les héros, au moment de sa naissance, devaient inévitablement avoir quelque chose de double en lui. Il peut revenir à des enfants ou à des animaux, ou bien encore, cette nature double peut prendre la forme claire d'une double paternité, comme dans le cas d'Héraclès ou de Mongan. Les doubles paternités, voilà un autre aspect de cette duplicité qui marque si fort l'identité héroïque. Dans la culture grecque, ce n'est pas un sort réservé seulement à Héraclès d'avoir une double paternité, mais aussi, par exemple, à Thésée, dans la variante qu'il présente comme le fils du roi Égée, un mortel de Poséidon, aussi à Pollux, etc. Jusqu'à l'Alexandre du roman, dans lequel le thème de la paternité du héros se complique et devient encore plus ambigu, puisqu'il se joue entre Philippe, le mari d'Olympias, Nectanebo et le dieu Amon. En suivant le fil des autres nombreux cas de double paternité attribués aux héros dans l'Antiquité, nous arrivons tout droit au héros fils de deux pères par excellence, Jésus-Christ. Et c'est bien que la culture chrétienne se soit évertuée par tous les moyens à effacer la présence trop humaine du second père. De fait, dans une société patrilinéaire où l'appartenance à un groupe par nation constitue la première marque d'identité et la plus importante, l'attribution d'une double paternité revient aussitôt à projeter les héros hors du commun des mortels et à établir son caractère extraordinaire. Si une communauté donne à un homme un statut social et des ancêtres aux individus en fonction de leur père, comment pourrait-on en avoir deux? C'est ainsi que la double paternité du héros s'impose sur les champs comme un élément qui atteste à son tour ce qu'il a d'exceptionnel. L'identité héroïque, exaltée déjà par les biais de la coïncidence temporelle, accroît davantage son caractère extraordinaire en se dédoublant, en se multipliant par la présence à côté de l'enfant, soit d'autres naissances parallèles, soit de deux pères. Comme nous l'avons vu plus haut, la naissance du héros peut s'accompagner de celle d'un animal. Ce que nous allons dire maintenant semblera peut-être singulier, ou du moins, il se peut que les exemples que nous avons choisis pour conclure notre voyage dans les territoires du double héroïque surprennent quelque peu. Mais nous sommes convaincus que c'est en partant de la présence d'un double animal du héros qui s'ouvre la perspective peut-être la plus prometteuse pour comprendre l'essence des histoires dont nous avons parlé jusqu'à présent. Aussi, essayons d'étendre encore les champs de nos réflexions en cherchant des comparata pour les types mythiques que nous avons analysés jusqu'ici. Des comparata, des éléments comparables. Mais avant d'aborder cette partie finale de notre discussion, un mot sur la pratique du comparatisme. Ce procédé d'analyse qui avait joué un grand rôle auprès des anthropologues du XIXe siècle, pour être ensuite rejeté et plus récemment repris dans une perspective nouvelle, comme l'a fait Marcel Détienne. Ce qui nous intéresse en proposant des comparaisons possibles pour cette caractère de duplicité qui caractérise la naissance héroïque n'est pas de ranger à côté des exemples venant d'autres cultures qui semble tout simplement confirmer ce que nous savons déjà. Du type, même chez la population X, il arrive que la naissance d'un héros soit accompagnée par d'autres naissances. Ça, on le sait déjà. Tout au contraire, ce qui nous intéresse ici, c'est de pratiquer un comparatisme utilisé comme instrument herméneutique. En d'autres termes, en tant que moyen pour expérimenter, pour voir dans notre objet d'étude, dans notre objet d'analyse, des modèles culturels qui autrement resteraient cachés et qui se révèlent par la comparaison. Pour citer Alexis de Tocqueville, dans une lettre à Pierre Frélon du 30 juillet 1854. C'est une des infirmités singulières de notre esprit de ne pouvoir juger les objets, les vit-il en plein soleil, s'il ne place un autre objet à côté. Donc voilà ce que nous allons faire, placer des objets à côté pour voir mieux notre objet. Commençons donc par une ère suffisamment proche de celle que nous avons examinée jusqu'à présent, à savoir l'Islande. Je me réfère aussi au livre de Nicole Belmont, un livre célèbre, Les signes de la naissance, que j'aimais beaucoup. Donc, dans cette population, la naissance d'un être humain peut prévoir, évidemment parce que ça c'est naturel, peut prévoir la présence d'une chose qui, presque partout, fait l'objet des soins et des pratiques très particulières, c'est-à-dire la coiffe, la membrane qui peut recouvrir le visage, la tête et le buste d'un nouveau-né. Donc la coiffe en Islande. Dans la culture islandaise, cette membrane porte le nom de fylgia. Elle est entourée, elle aussi, des pratiques et des croyances différentes, comme chez nous. En particulier, la fylgia paraît même être identifiée avec l'esprit gardien d'un individu. On croyait que quand elle était dévorée par un animal, elle s'incarnait en lui. S'incarner, la filgia, s'incarner dans l'animal. C'est Nicole Belmont, ça. Hein? Partant, l'être humain, dont la coiffe avait été ainsi absorbée, avait à sa disposition une sorte de gardien animal, sous la forme d'un ours, d'un renard ou d'un bouc. L'aspect le plus intéressant de ces rapports, cependant, vient de ce que l'animal gardien reflète l'identité propre de l'être humain dont il a dévoré la filgia. La présence d'un ours blanc révèle l'origine aristocratique d'un enfant. Celle d'un renard manifeste le pouvoir d'un sorcier, parce qu'il est rusé, alors que celle d'un bouc ensanglanté annonce la mort imminente de l'être humain auquel il est lié. En d'autres termes, un être humain peut refléter son identité propre dans l'animal auquel sa naissance les rattache, comme dans les exemples que nous avons vus plus haut. Si ce n'est que, cette fois ici, les liens ne relèvent pas d'une coïncidence temporelle, naissance d'animaux contemporains à celle d'Alexandre ou de Pryderi, un poulain, un chien qui sont nés en même temps que l'héros. Mais il s'agit ici d'un contact fortement métonymique, physique, entre les deux créatures que les destins lient inexorablement, c'est-à-dire la filgia coiffe dévorée, eux, l'être humain. L'homme dispose d'un alter ego, d'un double, de nature animale, associé à lui par les partages physiques, métonymiques, de la filgia, la coiffe natale. Cet exemple islandais nous permet d'y voir un peu plus clair dans le thème du dédoublement du héros mythique. Le fait qu'un tel dédoublement s'accomplisse au moment de l'enfantement, exactement au moment de la naissance, avec la naissance simultanée d'autres enfants ou d'animaux, ou avec une double paternité, est de toute évidence un trait fondamental du récit. En Islande, un animal est le double d'un nouveau-né, non pas parce qu'il est né en même temps que lui, mais parce qu'il a avalé une partie de son corps, une partie du corps des nouveau-nés. La métaphore de la coïncidence temporelle devient métonymie. L'animal filgia, qui a dévoré la coiffe, est un double métonymique de l'être humain. Voici maintenant une autre et dernière comparaison qui provient d'une ère non plus européenne. Il a été montré depuis longtemps qu'il existe, par Tambia, l'anthropologue Tambia, qu'il existe une croyance singulière chez les Kujama Diola du Sénégal. À un certain moment de sa vie, un Ajama Diola peut physiquement produire de son corps un animal qui court aussitôt se réfugier dans la brousse. L'animal créé d'une manière aussi insolite porte le nom de Evoum et, de sa naissance, il commence à fonctionner comme un double, à proprement parler, de celui qu'il a engendré. Si l'être humain se blesse, si l'animal se blesse, le bon se blesse, l'homme souffrira lui aussi. Les blessures infligées à l'animal sont même plus douloureuses pour l'homme qu'elles ne le sont pour l'animal quand c'est l'homme qui a été blessé. Comme nous pouvons le voir, il s'agit d'un double animal qui présente deux caractéristiques si semblables à celles que nous avons trouvées dans la filgia islandaise. Dans ce cas aussi, en effet, il se crée entre l'être humain et l'animal un rapport fortement métonymique, corporel. La coiffe dévorée fait pendant avec la production physique de ce double africain. Or, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que cet évoum, le double produit par le corps d'un être humain, se distingue par des particularités extrêmement intéressantes du point de vue de la classification sociologique, voire du point de vue de l'identité de l'être humain ainsi dédoublé. Qu'est-ce que je veux dire? En effet, ce double animal incarne à proprement parler l'autre moitié d'un Ajama Diola. Dès qu'il a été engendré, ce double animal va se réfugier dans la zone où vivent les parents maternels de la personne, s'il a été produit par un homme ou par une femme non mariée. Si, en revanche, il s'agit du double animal d'une femme mariée, il cherchera refuge dans la zone où habitent les parents paternels de celle-ci. En d'autres termes, le double animal d'un Ajama Diola explicite la dualité que chaque personne porte en elle-même. Dès lors qu'elle appartient à la fois à son groupe paternel et à son groupe maternel, ou dès lors que la femme mariée appartient à la fois au nouveau groupe dans lequel elle a pris place en tant qu'épouse et au groupe paternel dont elle provient. En somme, avec le vuum animal de Ajama Diola, la personne manifeste ses deux identités à la fois, partage ses deux appartenances paternelles et maternelles, sa parenté par les pères et sa parenté par alliance, et la partage en deux personnes distinctes. Avec les doubles animaux de Ajama Diola, les désirs, bien évidemment irréalisables, d'être à la fois soi-même et un autre, devient réalité. La possibilité de représenter contextuellement l'identité et l'altérité en les rapportant à une seule et même personne devient réelle. Tout comme les héros mythiques qui, dans le contexte d'une société patrilinéaire, reçoit une double paternité pour réaliser ce que les règles de la parenté, de la filiation rendent impossible. Mais alors que les Ajama Diola s'en tiennent au plan de l'appartenance sociologique, les héros mythiques, en revanche, veulent aller encore plus haut. Il aspire à rassembler une nature humaine et une nature divine, à demeurer lui-même en tant qu'homme et à être en même temps un autre en tant que Dieu. Et pourtant, avec sa double paternité, avec ses multiples frères contextuels, avec sa naissance marquée par une étroite coïncidence relevant d'un événement surnaturel, l'héros mythique dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent obéit lui aussi à l'impulsion d'être à la fois celui-ci et celui-là, tout comme le font les Ajama Diola avec la création du double animal. En conclusion, nous pouvons revenir à Héraclès, les héros dont la naissance nous a invités à explorer longuement les sentiers du double héroïque. De notre point de vue, il représente tout à fait les prototypes du héros. Si, sous le nom des héros, nous entendons un personnage dont l'identité va bien au-delà de celle de tout autre être humain, dès lors qu'il est à la fois lui-même et un autre, humain et divin. Héraclès, fils des deux pères, se retrouvant avec un jumeau loyal et un quasi-jumeau hostile, après sa mort, Héraclès finira réellement pour se dédoubler. Il aura son ombre dans l'Hadès, comme tous les autres mortels, et en même temps une vie divine dans l'Olympe. Commencée sous le signe de la spécularité de la naissance, la vie d'Héraclès s'est conclue sur un dernier dédoublement extraordinaire. Il est à la fois divinité parmi les dieux et ombre parmi les morts. Héraclès est à proprement parler celui-ci et celui-là. Certes, il s'agit seulement d'un songe de la pensée mythique, ce monde privilégié où l'impossible devient praticable, où l'autre là est l'identique, celui-ci et celui-là peuvent vivre côte à côte et s'assembler d'une manière irréalisable. Je vous remercie.